Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Eh bien, c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés.
L'interview.
Et l'interview, c'est avec la porte-parole du Parti Socialiste, Madame Lamia El Haradj, qu'on connaît, puisqu'elle est déjà venue ici plusieurs fois sur notre plateau. Bonjour Lamia El Haradj.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Comment allez-vous?
Eh bien, ça va bien, c'est la rentrée, déjà bien chargée, comme tout le monde, j'imagine.
Comme tout le monde, effectivement, vous avez bien raison de le souligner. Vous êtes la porte-parole du Parti Socialiste, Madame Lamia El Haradj. Je voudrais revenir sur cette séquence, ce clash, ce violent clash d'ailleurs, avec un consultant politique, donc dans l'émission, dans le cadre de l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews, vous avez eu un véritable clash. Je ne sais pas si on peut retrouver l'extrait, d'ailleurs il est sur jeanmarcmorandini.com. Tiens, je vais demander au réalisateur. Jean-MarcMorandini.com, il y a donc cet échange, vif échange, avec sur la ville de Stein notamment, et ces Français de souche. Que s'est-il passé avec le consultant politique, monsieur Snow Rocuan?
Ce qui s'est passé, c'est que je me suis un petit peu énervée. Mais il faut dire que c'était, à mon sens, totalement justifié, puisque en fait, il a fait, je ne sais pas si vous avez suivi la polémique, mais il a fait une distinction entre des citoyens estimant qu'il n'y avait pas de Français de souche. Donc je lui ai demandé comment est-ce qu'il pouvait considérer qu'il n'était pas Français de souche. Et donc il a fini par reconnaître que c'était sur la base de leur couleur de peau, hein, en gros. Donc je lui ai expliqué que ça s'appelait de la discrimination, et que c'était du racisme, donc je l'ai traité de raciste.
Ouais.
Et comme il y est, j'ai enchaîné pendant, je crois, 2 minutes où je l'ai traité de raciste en boucle.
C'était un véritable clash avec lui. Est-ce que ça méritait, évidemment, de s'attarder autant de temps avec lui sur ce sujet, puisque de toute façon, il campe sur des positions que vous connaissez, finalement?
Oui, mais oui, vous avez tout à fait raison, Adil. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi un autre clash où je lui ai gentiment expliqué que la musulmanie n'était pas un pays, en fait. Donc expliquer que l'immigration musulmane posait problème, je lui expliquais moi que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc,
pourquoi il y a une obsession, vous avez le sentiment qu'il y a une obsession sur ces questions, notamment liées à la question de la religion de l'islam, notamment liées à ces conseillers municipaux dont il faisait référence sur de la ville de Stein, la question de cette obsession liée évidemment à des sujets de l'immigration globalement dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce climat? Est-ce qu'on est en train de traverser un climat délétère?
Évidemment qu'on traverse un climat délétère, mais déjà, moi, j'ai pas voulu laisser passer, parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre toute la journée des fachos, d'entendre toute la journée des racistes, d'entendre toute la journée des populistes venir nous expliquer en quoi est-ce que les autres sont une menace pour eux-mêmes, ou sont une menace pour la République, ou sont une menace pour la France. Parce que je crois qu'on est toutes et tous des enfants de la République, et qu'on contribue toutes et tous, par notre travail, par notre implication dans la vie citoyenne, par nos enfants, par notre action dans la société, à faire que cette République française, elle se tienne et qu'elle tienne debout. Donc stigmatiser les uns et les autres, j'en ai ras-le-bol. Et c'est pour ça que moi, j'accepte toujours d'aller débattre sur ces news, parce que je pense que c'est aussi important d'aller apporter de la contradiction à ces gens-là, qui peuvent qu'aujourd'hui, ils peuvent raconter tout et n'importe quoi, qui peuvent pointer du doigt nos enfants, qui peuvent pointer du doigt leurs voisins, qui peuvent pointer du doigt nos parents, en considérant que parce que ces gens-là sont soi-disant, selon des critères qui n'existent que dans leur tête, différents d'eux, en fait, ils ont le droit de les pointer du doigt. Ça, j'en ai ras-le-bol. Et donc, j'ai décidé de le dire. Donc, je l'ai traité de gros raciste,
Bon, vous assumez?
Complètement.
Vous ne regrettez pas?
Non, absolument pas. J'aurais même peut-être dû le dire un peu plus.
On va diffuser un extrait tout à l'heure. Je crois qu'on a retrouvé l'extrait. On va juste écouter pour que, justement, les auditeurs, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi cette séquence avec le consultant politique de Jean-Marc Morandini sur l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews, ce clash qui a eu lieu. Je voulais juste qu'on revienne là-dessus parce qu'effectivement, on voit bien le ton, il est donné. Écoutez, et on revient en parler avec notre invitée, la porte-parole du PS, Madame Lamia, El Haradj.
J'avoue, je comprends pas bien le début de la polémique, en fait, parce que je vois pas déjà un sur quoi on se base pour parler de Français touche ou pas de Français touche.
D'accord, vous l'avez compris, le début de la polémique, c'était la phrase qu'il a prononcée.
Mais par ailleurs, je comprends pas quel est l'intérêt, en fait, de pointer ça du doigt. Qu'il y ait des problématiques de criminalité, sincèrement, j'en sais rien, je connais pas ça.
C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Non, mais pas de sujet. Après, qu'il y ait des problématiques de sécurité, oui, ok, c'est une réalité dans beaucoup d'endroits, en fait, dans beaucoup de quartiers.
Et est-ce que vous, ça vous choque quand vous entendez Garenne qui dit, il n'y a pas de Français de souche dans ce conseil municipal? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous comprenez notre interlocutrice qui était choquée aussi?
Bien sûr, ça me choque à deux égards. Déjà, un, sur quoi on se base? De ce que je comprends, monsieur, de votre propos, vous vous basez en gros sur des couleurs de peau. Ouais, bah, voilà. Donc, vous vous basez sur des couleurs de peau.
Plus, hein.
Donc, c'est bien ce que je dis, l'extrême droite.
Que là, vous saviez pas répondre
sur elle. Et prône les différences. Bah oui, vous connaissez pas parce que vous vouliez pas vous engager là-dessus. Sur quoi vous le voyez?
Répondez-nous
là-dessus, ça m'intéresse beaucoup.
Parce que la question des dom-toms était intéressante. Si il y a des dom-toms, ça en fait plutôt une française de souche. Alors que le
conseil municipal... Je sais pas, la Lemia est française de souche?
Bien sûr que non, elle n'est pas française de souche.
Mais ça apporte quoi au débat, en fait? Oui, c'est une question. Pas bien, en fait.
Oui, vous êtes européen.
C'est européen de
souche. C'est blanc, en fait.
Il n'y a pas de français de souche.
C'est blanc, en fait, ce que vous voulez dire.
Mais c'est une population qui est là depuis 1500 ans.
Et donc, on fait des discriminations en fonction de la couleur de peau des gens. Ça s'appelle discrimination. Mais si, c'est ce que vous êtes en train de faire.
Je ne dis pas qu'ils sont pas français.
Vous êtes d'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Quelles sont les différences entre l'extrême droite et les autres partis politiques? Ben voilà, c'est exactement ce qu'est en train de faire, monsieur. En fonction de la couleur des peaux des gens, on va expliquer s'ils ont raison ou s'ils ont tort.
Juste attendez,
la politique de la mairie,
qu'on comprenne bien, c'est la
politique communautariste.
C'est la couleur de peau.
Bien sûr, c'est la couleur de peau.
Majoritairement, oui, bien sûr.
Exactement.
Oui. Majoritairement,
ça y est, donc il le dit.
C'est une
bravo, vous êtes raciste.
Mais pas
très,
du tout.
Mais si, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes d'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite.
Vous êtes d'extrême
droite. Vous êtes d'extrême droite. C'est tout.
Est-ce qu'on peut parler?
C'est tout. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Pourquoi est-ce qu'il y a la discrimination positive?
C'est chaud, madame Lamia El Haraj.
Et encore, il n'y a pas le reste de la séquence, parce qu'ensuite, je l'enchaîne pendant 2 minutes où je le traite de raciste en boucle. Mais
ouais, oui, on a vu, effectivement. Oui.
Mais il ne faut pas laisser passer, en fait. Il y en a ras-le-bol d'entendre ce genre d'individu pérorer sur tous les plateaux télé en racontant des conneries.
Oui.
Donc, faut leur dire, ouais, il est raciste, ouais, bien sûr qu'il est raciste.
Lorsqu'il fait référence aux élus de la ville de Stain, notamment en qualifiant qu'il n'y a pas suffisamment de Français de souche, ça vous choque?
Mais évidemment que ça me choque. Ça veut dire quoi aujourd'hui, Français de souche? Ça veut dire quoi concrètement? Que toi t'es noir, toi t'es un peu marron, toi t'es blanc, donc il y en a pour qui ça passe, d'autres ça passe pas. Ils se basent sur quoi? Ça veut dire quoi? Et quel est l'intérêt de toute façon de ce débat-là? Et surtout, ce qu'on n'entend pas dans la séquence, c'est qu'il établit un lien entre la composition, selon lui, du conseil municipal et la criminalité de la ville de Stain.
En fait, on a reçu le maire de Stain, justement, en fait, M. Azedine Taibi, qui a décidé de réaliser un clip avec tous ses élus qui mettent en scène français, ce que cela veut dire, évidemment, avec toute sa représentativité. Il a eu raison, Lamia El Haraj?
Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi être français? Bien sûr que la question se pose.
Mais est-ce qu'il avait besoin de justifier qu'on est tous français?
Moi, je pense que c'est une façon de répondre à la polémique. J'ai cru comprendre que les élus avaient été très affectés par ce qui s'est passé, et je peux tout à fait le comprendre. C'est-à-dire que quand on s'investit, qu'on donne de son temps, qu'on travaille au service d'un projet municipal ou d'un projet vis-à-vis de nos concitoyens, on a envie d'être reconnu pour le travail qu'on fait, ou pas d'ailleurs. Moi, qu'on pointe du doigt les problématiques de criminalité ou la gestion par cette municipalité ou d'une autre de la propreté, de la sécurité ou de la voirie, ok. Mais qu'on considère que parce que il y a une personne de telle couleur de peau ou une personne qui pense ça dans ce qu'on fait, donc c'est ça qui pose problème, c'est ça qui est à l'origine des problèmes, moi je suis pas d'accord.
Alors si vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais vous poser, vous, la porte-parole du PS, le Parti Socialiste, est-ce qu'il s'est relevé? Est-ce qu'il, à quel moment, si vous voulez, voilà, on va retrouver évidemment cette gauche qui, évidemment, défendait les intérêts des quartiers populaires de la France, qui sont aujourd'hui, récupérés par les extrêmes?
Écoutez, Adil, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, puisque le Parti Socialiste va rentrer dans une phase très importante sur le plan démocratique pour nous, c'est-à-dire qu'on va rentrer en phase de congrès. Et ce congrès, il a vocation à nous permettre de faire le bilan des 5 années écoulées et à nous permettre de tracer des perspectives pour les années qui vont venir et notamment redessiner un projet qui soit au plus près de ce qu'on estime être aujourd'hui des préoccupations majeures. Il y a la question sociale, il y a la question écologique, il y a la question du vivre ensemble, il y a la question de la République, il y a la question démocratique. Quand il y a plus d'un électeur sur deux aujourd'hui qui ne se déplace pas pour aller voter, il faut peut-être arrêter de culpabiliser les électeurs et se poser la question de...
Vous pouvez nous en dire un peu plus? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines pour le Parti Socialiste? C'est-à-dire lorsqu'évidemment... Vous nous livrez quelques bribes, mais on a besoin d'en savoir un peu plus.
Bah, écoutez, moi, avec d'autres au sein du Parti Socialiste, on va être à l'origine d'un texte qui est ce qu'on appelle une contribution générale, donc qui est un texte qui va donner quelques perspectives, qui va proposer une certaine vision du débat. Derrière, il va y avoir des discussions autour des différents textes, et à partir de là, toute une séquence de votes pour établir l'orientation du Parti Socialiste pour les 3 prochaines années. C'est une phase qui est importante parce que typiquement la question que vous me posez de pourquoi est-ce qu'on ne parle plus au quartier populaire, pourquoi est-ce qu'on n'est plus audible par rapport au quartier populaire,
bah oui,
ça fait partie
oui.
des sujets qu'on abordera dans le cadre de ce texte. Et oui. je serais ravie de venir vous en parler sur l'antenne.
Eh bien écoutez, nous aussi, nous serons ravis de vous accueillir pour en parler, on prendra le temps. Il se trouve sur le plateau, Monsieur Bruno Pomar, que vous connaissez, qui est un ancien du RAID. Il a d'ailleurs monté une fondation qui s'appelle RAID Aventure. Un ancien policier, mais aujourd'hui maire aussi d'un petit village. Il aimerait, si vous me le permettez, Madame la porte-parole, simplement vous poser une petite question. Monsieur Bruno Pomar.
Bonjour Madame la porte-parole, juste une question parce que je suis élu d'Occitanie évidemment, d'un petit village de 125 habitants qui s'appelle Belleflou, et j'ai vu il y a quelques jours Carole Delga qui a réuni à Bram, une ville à côté de chez moi, près de 1700 je dirais partisans, socialistes. Est-ce que vous croyez que Carole Delga est l'avenir du Parti Socialiste ou pas? Et est-ce que vous croyez pas que c'est un peu tard? Parce que lorsqu'on voit dans la région Occitanie, moi je m'en suis, j'ai été un peu interloqué, qu'on a 7 députés Rassemblement National entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude qui ont été élus, et les socialistes locaux là-bas se posent la question en disant non, c'est pas le problème du Parti Socialiste. Bah si, c'est le problème
du Parti Socialiste. Bah si, parce que c'est un peu l'ancrage du Parti Socialiste là-bas.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, déjà sur Carole Delga en tant que telle, en tant que personne, elle fait partie de l'avenir du Parti Socialiste, oui bien sûr. Après moi j'ai toujours du mal, en tout cas à ce stade, avec le fait de désigner une personne comme étant à elle seule l'avenir du Parti Socialiste. Je pense que le Parti Socialiste est riche de sa diversité politique, est riche de la diversité de ses talents et ses expressions internes, et qu'on a vocation à permettre l'émergence d'un maximum de personnes de talents qui vont apporter au Parti Socialiste dès demain et pour un certain nombre dès aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de Carole Delga. En Occitanie, effectivement, vous avez raison de le souligner, il y a eu un certain nombre de députés RN qui ont été élus, 89 à l'échelle nationale quand même, je le rappelle. Et ça, moi, je ne peux pas m'en réjouir, évidemment. Au contraire, ça m'inquiète. Je suis très, très inquiète pour les prochaines années.
Il y a de quoi.
Une responsabilité d'un seul parti politique, bon, je pense que c'est pas trop facile parce que et à l'échelle d'ensemble du territoire. Par contre, considérer qu'aujourd'hui, il y a une certaine partie de la population à qui les partis dits traditionnels, républicains, n'arrivent plus à parler, oui, ça c'est une réalité.
Bon.
Que les gens considèrent que leurs problèmes de budget, que leurs problèmes d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, d'accès à un mode de transport décent, que les politiques n'arrivent pas à y répondre, évidemment que ça pousse les gens à aller vers des solutions extrêmes.
Merci, ma chère Lamia El Haradj, porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous et on vous attend dans nos studios pour justement détailler et nous préciser la nouvelle ligne politique du Parti Socialiste.
Avec grand plaisir.
Merci, à très bientôt. On va marquer une pause et on va se retrouver notamment avec nos auditeurs. Et bien tout simplement, je vais vous livrer ce sujet, notamment avec notre invité. Doit-on laisser passer, évidemment, lorsque cette séquence, on parle de racisme, on fait référence à des Français de souche, est-ce que nous, on doit se sentir concernés? Est-ce qu'on doit en parler? On doit échanger là-dessus? On doit laisser la place vide ou est-ce qu'on doit l'occuper? Un peu comme, évidemment, de l'a souligné Lamia El Haradj. 0153-48-3000, je vous attends. À tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
On de retrouver nos amis débatteurs influenceurs, et ils sont nombreux sur le plateau aujourd'hui, 18h23. C'est vous, votre parole. Le standard est ouvert au 01 53 48 3000. Jingle!
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant de retrouver Koutaïba de Paris, qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Pierre Colombiès? Les gens de la police, ils ont toujours un problème. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent?
Alors d'abord, monsieur l'agent, oui, enfin je...
Monsieur commandant, commandant.
Non, mais j'ai beaucoup
c'est de pas l'agent, les... vous avez raison, beaucoup, c'est commandant.
Mais peu importe, j'ai beaucoup de respect pour les agents de terrain.
Mais moi aussi, vous le savez.
Que je trouve qu'on ne respecte pas assez, je ne parle pas de ce plateau, hein. Je parle des politiciens qui sont très très loin des réalités du terrain, malheureusement.
Allez, on se retrouve tout à l'heure pour les débatteurs, justement, parce que on va se retrouver avec un joli plateau. Tout de suite, je vais accueillir Koutaïba de Paris. Koutaïba, bonjour.
Koutaïba, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi les invités aujourd'hui? Parce que j'ai pas entendu bien.
Ah bah, vous allez les découvrir dans une poignée de minutes, justement. Quel est votre avis, votre point de vue, justement, sur la question du racisme, l'islam, français de souche? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et j'attends les auditeurs au 0153 48 3000. Partout en France, je vous attends.
Oui. Allô?
Écoute.
Oui.
Je vous écoute.
Le mot racisme, j'aime pas le mot racisme. Le mot discrimination, il faut pas le prononcer. Il faut le retirer du dictionnaire français.
Ouais.
La discrimination raciale ou la discrimination positive ou tout ce qui est discrimination, c'est le titre qui compte, c'est la discrimination.
Mais si on le retire, on n'a plus le sens du terme.
En Amérique, ils n'ont pas le mot discrimination. Il faut le retirer carrément du dictionnaire. Parce que ça va nourrir la haine. C'est pas la discrimination qui va nourrir la croissance en France.
Exact.
Il faut pas jouer avec des mots croisés. Dire la vérité comme il est. Là, j'ai l'impression que la politique, il est polluée. Ça veut dire quoi, la pollution? Il est pollué, on respire plus de la politique.
C'est vrai. On dirait qu'on fait plus de la politique.
Moi, c'est moi qui ai inventé le système-là parce que j'ai fait des recherches derrière ça. Moi, la politique pour moi, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, là, je respire plus. Il devient un gaz carbonique, c'est un CO2. Si on prend la politique des années 80, quand il y a François Mitterrand, Alain Juppé, les anciens, là, on respire de la politique. On croyait à la politique.
Ouais.
Voilà. Donc, je veux vous dire, au niveau de la discrimination, il faut
comprends ce que vous dites. C'est terrible.
C'est un rappel à refaire à chaque fois.
Il y a une responsabilité des politiques, hein, Kutaïba.
Ouais, il y a une responsabilité des politiques. Exactement, c'est ça que je voulais savoir. Moi, je suis pas un politicien. Voilà, laisse les politiciens aux politiciens. Et il y a des gens qui font pas de la politique, qui font de la politique, qui font n'importe quoi. Il faut dire la réalité. Là, la France, elle commence à diminuer dans la croissance. Pour qu'on fasse monter la croissance, il faut parler sur le travail. Les Français souffrent dans le travail. Voilà, c'est ça les vraies questions.
Bon.
Il faut parler.
Vous avez raison. J'aime beaucoup, évidemment, la manière dont vous amenez les choses, mon cher Kutaïba. Voilà. Merci.
Il faut faire une hypothèse, une donnée politique avec un bilan de la conversation et une conclusion de la politique. Il ne faut pas parler trop.
Merci beaucoup.
Parce que normalement, si on commence à dévier sur la discrimination, c'est pas bien. On a bien compris.
J'ai beaucoup d'appels. Il faut qu'on passe, évidemment.
Je sais, je comprends. Je comprends le désarroi des Français. Merci beaucoup.
Merci à vous, surtout. Et merci pour votre fidélité. Rachid, vous êtes réparateur de vélo. Vous habitez Paris. Bonjour, bonsoir, Rachid. Bienvenue aux informés.
Sincèrement, j'ai même pas suivi le débat, j'avais appelé parce que j'appelle souvent Beurre FM.
Ouais, bah bienvenue.
Merci.
Bienvenue. Alors, quelle est votre réaction, vous, concernant le racisme, les sujets du racisme, discrimination, français de souche? On nous ramène encore toutes ces questions.
Sincèrement, j'ai grandi en 93, depuis tout petit, j'ai 38 ans. Je veux dire, on a toujours cohabité ensemble et tout ça. Après, on sait tous très bien que cette supercherie, c'est plus au niveau politique en fait, c'est plus eux qui créent de la zizanie que ceux qui vivent normalement quoi en fait.
Ouais.
Malheureusement, c'est vrai qu'ils ont des connexions via plein de choses, la télé, tous ces machins. Voilà. Mais sinon, dans la vraie vie, sur le terrain. Franchement, il n'y a pas de discrimination. Moi, j'ai grandi en banlieue, je veux dire, avec des Arabes, Chinois, Français, tout ça.
Et la question ne s'oppose pas.
Tout à fait, c'est naturel. On est tous pareils, au même niveau. Franchement, moi, je suis marocain, je ne vois pas la différence entre un Algérien, un Tunisien, un Malien ou un Français. Franchement, il n'y a pas de diff.
Il n'y a pas de diff, mais c'est bien. C'est bien. Restez évidemment dans... Non mais, moi, je suis content d'entendre ce type de témoignage. Merci Rachid d'être intervenu.
Et merci à vous Adil, franchement de laisser la parole aux gens parce que vous êtes une radio franchement. Souvent je passe chez Confidence, c'est un instable de réflexe comme d'habitude.
C'est notre collègue de 21h. Oui.
Tout à fait.
Absolument.
Écoutez, Adil, prenez soin de vous, bon courage, bonne continuation et franchement vous êtes un bon gars, la vérité.
Ben merci, ça me fait plaisir. Mais merci, okay. non mais sérieux, c'est toujours bon d'entendre des belles choses. Hein. Merci. Madji, merci Rachid, prenez soin de vous. Et merci pour votre fidélité.
Bon courage.
Merci. Maddy du Val d'Oise. Maddy, vous travaillez dans le social. Bonjour Maddy.
Comment ça va depuis l'autre jour?
Écoutez, depuis combien? 15 jours?
Non, même pas 2 jours. C'est moi qui a traité les médias.
Ah, c'est vous? Ah bah bienvenue. Ça va, vous êtes un vrai fidèle, vous, hein?
Bah j'essaye, hein.
Allez-y, on vous écoute, mon cher Maddy. 0153-48-3000. Ouais. Je vous attends au standard, partout en France.
Le racisme, Jésus, c'est une chose. Il y a des Français qui habitent à l'étranger. Donc, l'autre fois, ils ont passé un documentaire sur les Français qui habitent en Australie, qui subissent, entre guillemets, des discriminations, parce qu'il y a pas mal de Français qui ne sont pas aimés là-bas.
Ouais.
Donc, le gouvernement et d'ailleurs, celui qui est le narrateur, il disait « c'est pas normal » et tout.
Ouais.
Donc, alors, on fait la même chose ou pas?
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Vous traitez les étrangers comme rien du tout et vous gueulez, vous criez parce que vos Français sont traités la même chose qu'ils sont en France, en Australie.
Ouais.
Donc, comme on dit, comme on te fait, quand tu fais, on te fait.
C'est ce qu'on dit en Australie?
Ah oui, les Français sont pas aimés en Australie, hein, pas du tout, hein.
Pas tous.
Bah. Faut pas regarder les documentaires, ils montrent les Français qui ont réussi, mais il y en a peu.
Ouais, réputation. Réputation, voilà, c'est plutôt ça. Eh bien, merci Maddy d'être intervenu. Maddy, voilà. Merci à vous.
Je suis d'accord avec le monsieur, hein, qu'on enlève le mot.
Discrimination, vous avez dit, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
Ouais, et qu'on enlève ceux qui parlent de discrimination, qu'on les enlève aussi. Donc, à faire.
Oui, absolument. Maddy.
Aimez-vous les uns les autres et laissez-moi tranquille.
Merci Maddy.
Bon courage. Hein.
Merci à vous aussi, surtout.
Ciao.
18h30, on va retrouver le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf.
Avec Pascal Boniface. Pascal Boniface, bonsoir. Il est là? Non? Ah, on a un petit souci. Non, mais attendez, c'est pas grave. Je vais accueillir Mohamed des Yvelines. Mohamed, bonjour. Mohamed.
Oui, Mohamed, vous m'entendez?
Bonjour, vous travaillez au sein de cette belle maison, la SNCF, c'est ça, non? Ou la RATP?
Si, non, c'est ça, SNCF, oui, je suis cheminot.
Vous nous appelez de quelle ville, Mohamed?
Les Mureaux.
On vous écoute, mon cher Mohamed, bienvenue.
Oui, je vous remercie. Je vous écoutais, j'écoutais les interlocuteurs. La discrimination, il y en a, il y en aura toujours.
Ouais.
C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. On regarde moi qui suis d'origine marocaine,
oui.
Mais français, mais on m'oriente toujours dans mes origines.
Oui.
Donc on regarde à l'actualité à l'heure actuelle, on est plus pointé du doigt en tant que musulman qu'en tant que français.
Oui, c'est pas faux.
Non, oui. Mais. Comme quoi, être français.
Quand je dis
que
c'est pas faux,
c'est pas compatible.
Évidemment, je me base sur les différentes séquences que je vois ici-là. Notamment, je fais référence à cette séquence avec Lamia et Laradj, la porte-parole du PS, et ce clash violent qui la renvoie évidemment à son origine, à la question de la religion.
Oui, on a juste à voir avec ce qui s'est passé avec Nafis Tatou et Zemmour.
Ouais.
Comme quoi, elle aurait dû changer de prénom. On peut pas être français avec un nom de consonance musulmane. Mais franchement, vous pouvez aller à 70%, même dans le milieu du travail, dans les entreprises, il y a une discrimination. On le regarde juste même dans les grands groupes, comme la SNCF, RATP, des personnes, on va dire, qui sont basanées ou noires. Regardez dans les hautes sphères de l'échelle, vous regardez les organigrammes,
oui.
Les PDG, les directeurs. Bah, écoutez, il y a un exemple tout simple, l'Assemblée nationale.
Oui.
C'est malheureux de le dire, mais on aura pas en discuter. Je pense que même dans 100 ans, on en discutera encore.
C'est possible, non, c'est vous avez peut-être raison. Non, mais attendez, Mohamed, c'est possible, vous avez peut-être raison. Allez, je veux pas qu'on se mette en retard. Mohamed, merci évidemment de votre passage sur l'antenne aux informés. Merci infiniment, mon cher Mohamed, restez fidèle. Vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre aux informés sur BFM. Et ça, je vous dis merci, parce que ça nous fait plaisir. Continuez à nous appeler au 0153-48-3000 pour l'heure. C'est le Quoi de Neuf, c'est parti, avec Pascal Boniface, jingle.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec Pascal Boniface, le patron fondateur de l'ERIS. Bonjour mon cher Pascal Boniface.
Bonjour Adil.
Quel plaisir de vous retrouver. On va vous écouter pour le Quoi de Neuf. Il s'agit là d'aller direction la Russie avec Poutine. Est-il aux abois? On vous écoute, mon cher Pascal.
Oui, effectivement, on risque de parler encore assez longtemps de cette guerre en Ukraine parce que malheureusement, il n'y a aucun signe qui puisse permettre d'en voir la fin à brève échéance. Poutine a subi une défaite il y a une dizaine de jours. Ses troupes ont reculé, ils ont perdu 6000 km carrés et du coup, il a décrété la mobilisation partielle. Alors, c'est un peu contradictoire parce que généralement, quand on déclare la mobilisation, c'est qu'il y a la guerre. Or, Poutine ne veut pas dire qu'il y a la guerre, il dit qu'il y a une opération militaire spéciale. Mais en mobilisant, bien, il avoue qu'il a subi une défaite, il ne veut pas en subir une deuxième, sinon ça serait son pouvoir qui serait mis en cause. Et puis il veut donc envoyer d'autres jeunes gens au front. Et c'est là que les choses commencent à se gâter pour lui. Parce qu'on a tous vu de gens qui fuient, parce que simplement ils ne veulent pas mourir. Ils n'étaient pas contre la guerre tant que c'est les autres qui la faisaient, mais si c'est eux qui doivent la faire, ben justement, il s'agit d'aller en Ukraine.
On vous perd, mon cher Pascal Boniface. Il y a un problème de connexion. Aïe. C'est dommage parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Oui, allô, mon cher Pascal. Vous savez qu'on vous a perdu pendant quelques secondes.
Ah bon, mais...
Oui. Non, on vous a perdu. Et on a un problème de connexion, mon cher Pascal. On a un problème de connexion. Non. Le standard va vous récupérer. On a un vrai problème de connexion. On va tenter de réparer ça. On va essayer de récupérer Pascal Boniface. Je vais juste, accueillir Amar qui nous appelle de Paris. Bonjour, Amar. Bonsoir. Vous êtes ingénieur. On vous écoute.
Bonsoir, Adil.
Bonsoir, Amar.
Oui, je voulais juste dire que personnellement, je constate que depuis qu'on a ce gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de verrous qui ont sauté parce qu'on a l'impression qu'on a un gouvernement en fait qui fait un focus sur les musulmans, donc il n'arrête pas de stigmatiser les musulmans et de façon générale aussi les immigrés. On voit les polémiques des ministres de l'Intérieur qui passent son temps en tout cas à parler de radicalisme, de fermer des mosquées, de parler de l'Algérie, du Maroc, des visas, etc. Donc elle instrumentalise, on va dire, ce sujet. Et depuis le premier mandat, on a vu un face-à-face entre Macron et le Front National. Et là, on se retrouve avec un deuxième mandat dans la même situation, voire pire, parce qu'elle a eu presque une centaine de députés. Donc, il n'a rien fait, en fait. Et elle a seulement aggravé ce sujet. Il a encouragé l'extrême droite. Donc,
merci.
C'est dommage.
Merci, Amar.
De la part de ce gouvernement et de ce président, en tout cas.
Eh bien, merci, Amar, d'être intervenu. Merci à vous. Tiens, Pascal, qu'on a récupéré. On a eu un gros problème de souci de liaison, mon cher Pascal. Quelle était la chute de votre édito?
Alors, la chute de l'édito, c'est que, comme je le disais, je pense que c'est parti de là. Les jeunes étaient un peu indifférents à la guerre parce que ça ne les concernait pas. S'ils doivent partir à l'affaire, c'est tout à fait différent. Et Poutine a un peu rompu le pacte qu'il avait avec les Russes. Vous occupez pas de tout ce qui se passe à l'extérieur, je m'occupe de tout, et cela ne vous regarde pas. Et là, s'ils doivent perdre la vie, ils disent que c'est moins dangereux d'aller en prison, finalement. Et donc, on a vu des dizaines de milliers de jeunes Russes qui fuient. Et bien sûr, Poutine va trouver, dans les minorités notamment, de quoi envoyer des gens au front. Donc, il ne va pas perdre la prochaine bataille, il consolide son armée. Mais il affaiblit durablement son pays, parce que tous les talents qui sont partis sont souvent des gens bien formés, travaillant dans les nouvelles technologies, et qui ne pourront plus servir au développement de la Russie. Donc il est gagnant à court terme, perdant à long terme, et on peut dire aussi d'ailleurs qu'il n'est pas mécontent de voir des opposants partir. Il préfère les avoir dehors que chez lui, mais c'est quand même la Russie qui va payer tout cela un jour ou l'autre.
Un jour ou l'autre, dites-moi en quelques secondes, mon cher Pascal Boniface, dites-moi demain, vous savez, le discours est très attendu par Vladimir Poutine. On attend ce discours. À quoi peut-on s'attendre, mon cher Pascal?
Il va triompher, il va dire que tout se passe comme prévu, il va annoncer l'annexion des régions du Donbass qui appartiennent à l'Ukraine, en disant que grâce à son action, la Russie forte et éternelle est plus grande que jamais.
Merci! Toujours, et bravo pour toujours
Est-ce
ce...
Est-ce que je peux ajouter un petit mot à ça?
Mais je vous en prie, vous savez...
Parce que je viens de publier une bande dessinée, ce qui change de mes publications habituelles.
Ah.
Ça s'appelle Géostratégique, c'est en fait, c'est bah, les relations internationales en bande dessinée. Donc, je le signale, ça peut intéresser vos auditeurs.
Vous avez bien raison de le préciser. Effectivement, allez vous le procurer vite, rapidement, parce que, évidemment, tout ce qui vient de Pascal Boniface, c'est toujours bon. Voilà. Merci, mon cher Pascal. Boniface, le patron de l'ERESA, à très bientôt. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes avec tous les appels. Voilà, oui, et je ferai participer, tiens, nos débatteurs. Je voudrais qu'ils échangent avec nos auditeurs. Oui, parce que je vous vois évidemment grincer parfois. Je sens l'envie, évidemment, de s'emparer du micro. Allez, pause et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, tout de suite, je vais continuer d'accueillir justement Karine qui nous appelle de Paris, Sabrina d'Aubervilliers, Bilal de Vitry et tous les autres 01-53-48-3000. Je vais juste accueillir nos débatteurs influenceurs. Jean-Pierre Colombiès, bonsoir, bonjour. Ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui auteur, comédien. Vous êtes sur scène en ce moment?
Absolument, on sera demain soir au théâtre L'Espace Coluche à plaisir pour une comédie policière.
Moi j'aimerais.
Donc il y a encore des places pour ceux qui ont envie de venir voir une comédie policière, sourire et rire par moment. C'est voilà, un bon moment de détente.
Un bon moment de détente.
Espace Coluche, à plaisir.
Il faut y aller. Il faut soutenir notre ami débatteur, hein, influenceur.
Pas comme moi, je suis pas tout seul sur scène.
Vous êtes combien?
On est 6 comédiens, il y a 4 hommes et 2 femmes. Et voilà.
Ah, mais nous, si on y va, c'est pour toi.
Le théâtre, c'est pas une œuvre solide.
Non, on y va, c'est pour toi. En face de vous, il y a Karim Alouache qui a un petit retard, qui va arriver. Et puis, Bruno Pomard, le ancien du Raid, mais également aujourd'hui, le président fondateur de Raid Aventure. Chroniqueur aussi média. Bonjour Bruno.
Salut Adil, salut aux auditeurs de Beurre FM. Très content d'être parmi vous ce soir encore.
Exactement. Vous êtes toujours chez Hanouna, je ne vous vois plus.
Balance ton poste, c'est fini. TPMP, je fais des apparitions lorsqu'il y a des sujets où il faut défendre la police.
Exactement.
On est pas nombreux à défendre la police.
Absolument.
Et donc, défendre la sécurité de tous.
Oui. C'est ça. 01-53-48-3000, Bilal de Vitry, qui est manager. Bilal, bonjour, bonsoir mon cher Bilal.
Bonjour, je suis très content de passer à l'antenne. Je voulais juste,
nous aussi,
d'une manière tout à fait succincte, revenir sur vos deux précédents sujets. Le premier, suite à l'intervention de Pascal Boniface, qui est toujours très intéressante, je voulais rajouter pour que les auditeurs que ça intéresse, ceux qui veulent vraiment comprendre le conflit russo-ukrainien, il n'y a pas besoin nécessairement à chaque fois écouter le JT et rester passif. On peut aller chercher l'information. Et ceux qui le souhaitent, s'ils lisent les auteurs russes comme Gogol et Dostoïevski, ils comprendront très très bien les vraies relations qu'il y a entre les Ukrainiens, le peuple ukrainien et les Russes, la culture et l'histoire qu'ils ont en commun.
Bon.
Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas comprendre un conflit.
Jean-Pierre Colombier, je crois qu'il est d'accord avec vous. Jean-Pierre?
Complètement d'accord. Il y a une identité culturelle russe et très liée
à
l'Ukraine et pas simplement l'Ukraine. Il y a une vraie, ce sont des peuples frères, orthodoxes tous les deux, faut pas l'oublier.
Exactement.
Et ça, c'est très important dans ce qui les oppose. Et véritablement, là, on est dans une guerre d'ego entre Zelensky et Poutine. C'est une guerre d'ego aussi. C'est une guerre économique, bien évidemment, mais c'est aussi une guerre d'ego.
Ensuite, qu'est-ce que vous vouliez dire, Bilal?
Voilà, ça c'était le premier point très important. Et le deuxième point, on parle souvent, la dernière fois que j'étais intervenu, on parlait déjà de Zemmour et de sa phrase polémique sur l'éducation et le fait que les gens quittent les banlieues pour avoir une éducation à la française, etc. Enfin, du Zemmour pur. Là, on parle également de discrimination. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, lorsqu'il y a une discrimination, il y a ceux qui discriminent, mais il y a ceux qui la subissent. Et on parle souvent de ceux qui la font, mais ceux qui la subissent doivent se remettre en question et se reprendre pour ne plus être victime. C'est-à-dire qu'il faut que les communautés discriminées réagissent et montent le niveau et fassent en sorte qu'on puisse plus après les
discriminer. Bilal, il y a Bruno Pomard qui veut échanger avec vous. Bruno Pomard.
Ouais, je crois que ce sujet des discriminations, il est pour tout le monde. Hein. Il n'est pas seulement pour nos compatriotes français avec des origines étrangères, c'est souvent à sens unique cette affaire-là. La discrimination, elle est par rapport aux gens ce qu'on parlait tout à l'heure, les Français de souche aussi.
Et il faut pas. Mais qui l'a subi aujourd'hui? Mais qui l'a subi la cette discrimination?
Tous ces gens qui sont dans nos quartiers, dans les quartiers populaires. C'est eux. Nous, on risque rien. On habite les beaux quartiers. Moi, principalement, j'ai pas de problème. Et je suis maire d'un village, j'ai pas de problème de discrimination. Le problème, c'est que ces discriminations sont vécues dans ces quartiers où il y a un ensemble de communautés qui se côtoient. Et elles sont inter, je veux dire, entre eux. Que ce soit avec des origines d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord ou autre, les discriminations, elles existent dans tous les sens. C'est ça la problématique.
Oui, Jean-Pierre Colombiès.
Je ne veux pas prendre sur le temps de parole de l'auditeur, mais une chose à laquelle je tiens, moi, dans l'éducation nationale, c'est que vivre en France, c'est aussi une chance, comme on le disait hors antenne tout à l'heure, d'accéder à une forme de culture, une culture littéraire qui a été la culture des Lumières. Et il y a quelque chose sur laquelle moi j'insiste, y compris en tant que porte-parole d'une association policière, je souhaite, je le réitère, que il n'y ait plus de tenue discriminatoire à l'école. C'est-à-dire revenir à une forme d'uniformisation, tant pis si le monde...
Vous allez provoquer, vous, un débat,
non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je l'assume.
Les auditeurs vont réagir à ce que vous allez dire.
Je vous explique, j'ai vécu pas partiellement en Grande-Bretagne quand mes filles étaient scolarisées là-bas. Tous les gamins, qu'ils soient musulmans, juifs, anglicans, catholiques, protestants, avaient la même tenue. Oui. Donc il n'y a pas de discrimination dans ces conditions-là.
Voilà. Venez nous dire ce que vous en pensez, chers amis auditeurs.
Et les parents sont demandeurs.
Oui, juste moi, comme je suis au téléphone, mon temps il est très très court, donc je peux pas bien tout expliciter, mais c'était pas vraiment mon sujet. Moi, j'ai jamais dit que la discrimination elle était unilatérale et qu'elle avait un seul sens. Bien sûr qu'elle est bilatérale et qu'elle va dans tous les sens, elle existe dans tous les peuples et dans toutes les cultures. Ce que je dis simplement, c'est que c'est un système, c'est systémique, c'est-à-dire que quand quelqu'un subit une discrimination, il faut que cette communauté ou même cette personne se remette en question et fasse en sorte qu'elle ne puisse plus la subir plus tard. Voilà.
Merci après, Bilal.
Je ne vais pas rentrer plus
Bilal
dans les détails, c'est le message.
Merci à vous.
Et c'est tout.
Merci d'être intervenu. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci à vous. Fatma du 51. Bonsoir Fatma.
Bonsoir Fatma. Vous m'entendez ?
Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et quelle ville ? Vous nous appelez de quelle ville ?
Alors là, je suis dans le périph, car je descends une fois par semaine sur Paris, et je vous écoute à chaque fois. Et c'est vrai, là, en entendant les propos de certaines personnes...
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fatma ?
Je suis chef d'entreprise.
Bien, bravo. On vous écoute alors. Quelle est votre réaction ? Quel est votre point de vue ?
Bah, mon point de vue, c'est que moi, je suis française d'origine algérienne. Et le fait d'entendre toujours discrimination, moi, je n'ai pas choisi d'être née en France. Je n'ai jamais subi de racisme à proprement dire, mais pour revenir à ce que monsieur, j'ai pas retenu son nom, disait par rapport à la... je suis un peu émue de parler parce que je m'entends en résonance dans mon portant.
Oui, il faut éteindre votre poste de radio, c'est pour ça.
Alors je l'éteins.
Ouais.
Voilà. Allô ?
Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Hein.
Voilà. Donc, oui, c'était pour en revenir à ça. Ben, moi, je suis, comme je disais, d'origine algérienne. Je suis née en France. Je suis fière de mes origines, fière de mon prénom. J'ai honte aujourd'hui d'être française. Parce que quand je n'ai pas...
Ben, pourquoi vous voulez avoir honte ?
J'ai honte parce que la France reflète le racisme à l'état pur.
Bon, ça fait réagir Jean-Pierre. Attendez. Jean-Pierre, allez-y, Jean-Pierre. Ça va lancer un débat, là. Attendez, Fatma, s'il vous plaît. Je veux installer le débat avec nos débatteurs.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire de
Jean-Pierre Colombiès.
Non, mais balancer un truc comme ça à la
France. Ça veut simplement dire.
Mais non, mais je suis désolé.
À chaque fois qu'il y a un souci avec un Français d'origine musulmane qui a fait une bêtise, on va dire. On en parle tout de suite, c'est du non-stop. Et donc, qu'il soit, d'origine marocaine, algérienne, mais à partir du moment où c'est un musulman. Donc, la France, on a beaucoup, moi, c'est mon ressenti personnel, hein, on a beaucoup contre les musulmans, c'est mon ressenti personnel. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, j'ai honte d'être française.
Vous n'allez pas avoir honte. Bruno Pomar.
Madame, excusez-moi de vous dire, vous vous victimisez. Moi, je connais les quartiers depuis 30 ans. J'y habite pas, hein, mais je les côtoie depuis 30 ans. Et Dieu sait si j'ai passé des heures et des journées dans les quartiers les plus difficiles qui existent sur la métropole, enfin sur la France. Non, il faut pas dire ça. La France n'est pas raciste. La façon dont vous vous exprimez là est quand même difficile. La France est un pays d'accueil et Dieu sait si on a beaucoup de choses à beaucoup de défauts, mais pas ça.
La France était un pays d'accueil.
Oh ben, excusez-moi.
Jean-Pierre Colombiès. Jean-Pierre Colombiès, allez-y, je veux que le débat s'installe.
Madame, si vous n'avez pas choisi d'être
en France. Je suis désolée, monsieur, je n'ai pas choisi d'être une enfant.
Et vous y restez, a priori.
Ben, j'y reste parce que j'ai des affaires, parce que mes enfants sont nés ici, moi, oui. Mes enfants ont des situations, nous payons tous des impôts, et donc je me sens piégée aujourd'hui.
Mais non, faut pas dire ça, Fatma.
C'est ce genre de discours qui justement crée la division entre les communautés.
Non, c'est pas la division,
si, madame, vous l'alimentez.
Non,
ce
sont les politiques aujourd'hui, je suis désolée aujourd'hui qui créent la division. Hein. Je suis désolée
si vous voulez le dire. Et les associations qui incitent les enfants mineurs dans les collèges et les lycées à porter le niqab ou autre, eux, il n'y a rien à leur dire, on est bien d'accord. Eux, tout va bien.
Non, je suis musulmane, mais je suis contre certaines choses et c'est.
Mais vous admettrez avec moi que ceux qui lancent ce genre de mouvement, qui est propre justement à créer la différenciation entre communautés, c'est porteur de division.
Moi, j'ai la laïcité, tout simplement.
Voilà, ouais. Je suis désolé.
Je suis contraint d'une chose. Fatma, je suis contraint d'une chose. Restez avec nous, Fatma. Je suis contraint de lancer la pub. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h57 et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est excellent, vous savez. Fatma, vous avez installé un véritable malaise. Un malaise parce qu'effectivement, il faut qu'on continue, évidemment, de vous répondre. Jean-Pierre Colombiès, Karim Alouache que je salue, qui était coincé dans les bouchons. Karim Alouache, bonsoir. On ouvre le micro de Karim. Comment ça va, Karim?
Ça va bien, je suis fatigué.
Vous vouliez répondre à Fatma.
J'ai pas écouté le tout début des échanges. Et j'ai écouté d'abord.
On va enlever le générique parce que c'est vrai qu'il gêne. Voilà, merci.
C'est bon?
Oui.
Donc d'abord, moi j'ai des enfants même adultes. Nous, on n'a pas de doute, on est français, point barre.
Et d'origine algérienne, vous-même.
Non, on est français. On est français, point. Pourquoi je dirais que je suis français d'origine de quelque chose? Mes parents sont nés en Algérie, se sont battus pour l'indépendance. De fait, je suis né là, je suis né après 62, donc je suis né... de fait, français, moi, les Algériens nés en France.
C'est ce que disait Bruno Pondin voilà. Tout à l'heure, il a dit.
Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai entendu quelque chose à Eddy, les politiques. Alors, je vais pas vous dire ils ont raison, ils ont tort. Moi, je vais vous dire une chose et une seule chose. On a les politiques qu'on mérite. Et si ceux qui se sentent mal représentés. Moi, je me bats dans les quartiers pour que les gens aillent voter.
Comme Bruno Pondin.
Moi, je vis à Bondy, en Seine-Saint-Denis. J'ai fait un choix quand je suis revenu en France. De revenir habiter en Seine-Saint-Denis, je suis sidéré de voir des taux d'abstention de 70%. Moi, je suis pour le vote obligatoire. Et je vais vous dire passer un message. Parce que moi, je l'ai fait dans ma ville à une époque, quand j'étais pas content. Il y a un maire adjoint qui m'a dit, si t'es pas content, t'as qu'à te présenter. Et je l'ai fait.
Voilà.
Et on a bousculé les choses. Mais on peut pas changer les choses seul. Je vous invite à une chose. Il n'y a pas de fatalité et je trouve que le discours de la fatalité est ce qu'il y a de plus dangereux.
Moi, ce que je vous dis,
oui, il y a des choses qui vous plaisent, oui, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Moi aussi. Et je vais vous dire, je suis de confession musulmane, pratiquant. Donc j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Et dans la finance en plus. Et je me bouge et je me dis, il faut s'en mêler. Si vous n'êtes pas content du discours, il faut s'en mêler. Mais surtout de grâce. Hier, j'étais avec des étudiants, je veux dire, avec des lycéens à Bondy, dans un lycée, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où on vous dit, alors les politiques aiment bien vous dire 75% de la population d'origine étrangère et tout. Quand vous êtes né en France, vous n'êtes pas d'origine étrangère, vous êtes français, point à la ligne. Et un républicain. Eh bien, la fatalité, ça fait quoi? Ça fait que j'ai parlé pendant 3 heures à des étudiants qui ne postulent même pas dans certaines universités, dans certaines écoles. C'est-à-dire qu'ils n'essaient même plus parce qu'ils sont convaincus de la fatalité qu'ils ne seront pas pris. C'est dramatique. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas être satisfaite, vous avez le droit d'être scandalisé, mais bordel, battez-vous! Battez-vous avec le vote en vous présentant. Arrêtez de dire les politiques, soyez politiques.
Fatma, Jean-Pierre, s'il vous plaît.
Oui.
Chacun a pris le temps de vous répondre. Donc sentez-vous française d'origine algérienne, bien sûr, mais incarnez cette République. C'est aussi vous, c'est votre fruit, c'est votre culture.
Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est le discours qu'on entend à long terme.
Et comme il vient de dire à Karim Alouache, ou Jean-Pierre, ou Bruno Pomard, battez-vous.
Oui.
Merci Fatma. Je sais que ça fait réagir beaucoup de tiers. Merci à vous, hein. Prenez soin de vous. Et vive, évidemment, et prenez soin de votre entreprise. Rachida de Paris, vous êtes consultante.
Bonjour,
hein. Vous êtes consultante, oui, bienvenue, on vous écoute, ma chère Rachida.
Oui, alors moi, je réagis à ce que vient de dire Fatma. Donc, mon travail, c'est d'accompagner des personnes de toute origine.
Oui.
La France est un pays d'accueil, et toujours un pays d'accueil. Ah
ouais. Ouais.
Dans mon groupe, j'ai une quinzaine de personnes. J'ai des Ukrainiens, des Afghans, des Tunisiens, des Marocains, des Africains, enfin des Maliens, des Mauritaniens. Donc la France est un pays d'accueil.
C'est dit.
Donc après, effectivement, la fatalité, la victimisation.
Jean-Pierre et Bruno Pomard vous disent merci de le dire.
Mais je le dis. Et voilà, moi je suis née avant 62, vous voyez. Donc je suis née française parce que je suis née avant 62. Mmh. Et je suis française.
Mmh.
Ben voilà. De culture française avec une religion différente. Point final.
C'est ce qu'il fallait
dire. Jean-Pierre,
tiens un tour de table. Jean-Pierre,
c'est ce qu'il faut dire. À partir du moment où les gens s'intègrent à une culture politique, à une culture littéraire, à une culture philosophique, tout en gardant au fond d'eux une foi, quelle qu'elle soit, ça ne pose aucun problème.
Mais
ça devient problématique, c'est quand on veut imposer aux autres des rites qui entrent en contradiction avec les valeurs d'une république qu'on a mis des siècles à construire.
Bruno Pomard.
Et merci de nous dire.
Bruno Pomard.
La dame qui répond, qui dit, elle est née avant 62.
Donc,
Que mon équipier à côté est
après 62.
À un âge certain, ou un certain âge. Peut-être que les jeunes générations, effectivement, auraient plus tendance, ce qu'avait dit la dame précédemment, à se victimiser beaucoup plus.
Ouais.
Je pense que les plus jeunes générations. En tant que Français, évidemment, mais je pense qu'effectivement, eux comprennent d'abord que le pays, et vous l'avez dit, est un pays d'accueil, la France.
Oui.
Je crois qu'il n'y a pas pays d'Europe qui fait plus d'accueil.
Il y a quelque chose qu'il faut noter. Moi, mes parents sont venus d'Algérie. Mais pour mes enfants, je ne suis pas venu d'Algérie, moi je suis né en France. Et les mômes qu'on entend aujourd'hui, c'est les mômes dont les parents, voire même les grands-parents sont nés en France.
C'est vrai.
Donc il ne faut pas avoir ce rapport à l'origine. On n'est pas d'origine de quelque part pendant 50 générations. On mélange
alors,
tout.
En fait,
je suis algérien, je suis marocain. C'est vrai, il a raison, Bruno Pomard. Il y a beaucoup qui parlent comme ça.
Non, mais c'est pas ça.
Mais ça, c'est pour affirmer peut-être.
C'est un discours de revendication. On mélange tout. On mélange l'origine, on mélange les problèmes sociaux, les problèmes sociétaux, les problèmes éducatifs.
Oui, bien sûr, Rachida.
Alors, ça va encore plus loin. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Ça va encore beaucoup plus loin, puisque cette jeune génération revendique une guerre d'Algérie qu'ils n'ont jamais vécu et que leurs parents n'ont pas vécu.
Non, mais Bruno Pomard, il va plus loin. Vous savez ce qu'il vous a dit? Vous ne l'avez pas entendu, Rachida. Bruno Pomard, il vous dit dans les quartiers, la revendication des jeunes gamins des banlieues populaires qui disent je suis marocain, je suis algérien. Alors que c'est des Français.
Ils sont nés français.
Troisième génération. C'est la troisième génération qu'on parle.
Il y a une explication à ça.
Jean-Pierre Colombiès. Jean-Pierre Colombiès, si je vous redonne la parole, Rachida. Jean-Pierre Colombiès.
Excusez-moi très vite. Il y a une explication malheureuse à tout ça. C'est que ça fait quelques années maintenant qu'on explique à cette génération, ces jeunes-là, que nous ne sommes plus justement citoyens d'un pays et rattachés à une forme d'identité culturelle et politique. On n'arrête pas de le dire. Et Macron en est, je dirais malheureusement, l'expression, la catharsis de cette expression du vide. On leur explique qu'ils n'appartiennent plus à aucune culture. Or, je suis désolé, la nature humaine a besoin de se raccrocher à des valeurs. Et à partir du moment où on explique à toute cette génération il l'a dit lui-même, Macron, il n'y a pas de culture française. Il a tort. C'est dangereux
Moi, je vous rejoins tout à fait.
Ça prend des dérives, d'ailleurs.
Et je vous l'ai dit, moi, je suis musulman et pratiquant et ça me pose aucun problème. Et j'ai des actifs professionnels et j'emmerde personne, entre guillemets, et personne m'emmerde. En tout cas, je laisse personne m'emmerder. Et j'ai les mêmes revendications que n'importe quel citoyen en termes de propreté, de sécurité et autres. Vous avez dit, vous l'ai dit, j'ai fait 2 km en voiture. Et ben, pourquoi je prends ma voiture? Parce que j'en ai marre d'être emmerdé dans les transports, parce que je trouve que les transports sont régulés, sont sales. Et j'ai la chance de pouvoir aller venir en voiture. Où je vous rejoins tout à fait. On est en train de détruire.
Vous le savez, ça.
On est en train de détruire dans ce pays.
Non,
mais c'est vrai.
Attention, ça va faire réagir.
Si on veut faire un petit aparté sur l'écologie, commençons par s'occuper des transports en commun et je vous promets, je serai le premier à plus prendre ma voiture.
Bon, Rachida. Parce qu'il y a beaucoup d'appels.
Il y a une destruction volontaire politique tout à fait. Des valeurs.
Tout à fait d'accord.
Et des valeurs. Et attends, et ça, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que tous ceux qui se sentent mis à l'écart, quand vous êtes français, vous avez deux choses. Vous avez le droit de vous présenter et le droit de voter. Et bordel, personne l'utilise. Massivement dans... Non, mais je suis désolé. Dans les banlieues, c'est-à-dire où il y a le plus gros problème, où il y a les plus grandes discriminations, et vous avez 70% d'abstention.
On en a discuté.
Non, mais c'est débile.
Est-ce que je peux intervenir?
Rachida.
Est-ce que je peux intervenir? Oui, pour finir. Alors en fait, effectivement, moi j'ai commencé par faire de la politique. Hein, j'ai milité dans des partis de gauche, pour être exact. Ah. J'ai fait la politique, j'y ai pas trouvé mon compte. Donc mon emploi aujourd'hui est une forme de combat pour les libertés, pour accueillir tout le monde.
Justement. Alors, bon, merci Rachida, je vais la libérer. Il faut qu'on avance aussi parce qu'on a quelques sujets évidemment à traiter. Mais si vous me... Rachida, merci d'être intervenue.
Merci Rachida.
Évidemment.
Merci à vous.
Tiens, je vais juste accueillir Majid du 94, qui est salarié dans la vie. De quelle ville du 94, Majid?
Bonjour à vous.
Quelle ville, Majid?
Oui, je suis Tussy-en-Brie.
On vous écoute, mon cher Majid.
Vous m'entendez?
Oui, très bien. Allez-y.
D'accord. Ok. Bon, maintenant, moi, je pense que bon, le débat, ok, mais je comprends pas. Je comprends pas puisque avant de se plaindre, déjà, il faut voter. On a un droit de vote.
Tout à fait.
On a le droit de s'exprimer. C'est au même titre que tout le monde, que les Français, on a le droit de voter. Alors, voter, on n'est pas d'accord, on vote. On est d'accord, voilà. On vote. Mais il faut voter. Il faut arrêter de dire oui, on n'est pas bien. Quand j'entends la dame Fatma, je crois, qui parle de dire qu'elle a honte d'être française, mais attendez, c'est de la folie. Moi, je suis algérien, je suis kabyle, je vais deux fois, trois fois dans l'année en Algérie, je vois bien la situation, je vois bien qu'ici, en France, on est quand même bien.
C'est énorme, ça fait plaisir à entendre.
Je vois tous les jeunes.
Ça fait plaisir à entendre,
mais voilà. Qu'est-ce qu'ils cherchent à travailler, avoir une meilleure vie, qui n'ont pas chez nous. Il faut arrêter de critiquer.
Eh bien voilà. Merci Majid d'être intervenu. Mais évidemment, de le souligner.
Le discours de Majid est le discours de la grande majorité. Faut pas se tromper.
Et quand je me présente, je dis pas comme beaucoup de gens dire oui, alors j'appelle ou je suis musulman. Non, mais musulman, c'est pas une nationalité. Oui, je suis algérien, je suis kabyle, je suis musulman. Mais faut arrêter.
Merci. Bruno Poma.
Mais qui c'est
qui
entretient cette minorité, entre guillemets?
Merci Majid.
Les gens qui disent qu'on victimise, etc. C'est cette gauche extrême dont la LFI est le, oui, et l'étendard.
Je vais vous raconter quelque chose.
Les écologistes.
Je libère Majid.
Merci Majid d'être intervenu. Et vous savez quoi? Continuez à nous appeler, mais je voudrais qu'on aborde les sujets. Racontez votre anecdote. Mais il faut qu'on parle d'un réforme de retraite. C'est chaud, messieurs.
Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit. C'est la destruction organisée des valeurs. Et c'est ce qui fait que certains vont se raccrocher à un petit truc pour revendiquer quelque chose. Et vous avez raison. Et on va y arriver.
Oui.
Il faut se battre. J'ai croisé des gens qui me disaient, j'en peux plus, que je connais, des gens qui sont musulmans, mais très, pas pratiquants, pas plus ou moins, en tout cas pas visibles, qui étaient à un point, et des gens, pas des jeunes, hein, d'une cinquantaine d'années, qui me disait, une copine disait, ma parole, lundi, je vais au boulot avec un voile, j'en ai marre, j'en peux plus, on a la guerre en Ukraine, on a l'inflation, on a eu le Covid, on a des vrais sujets, on a un problème sur les retraites, on a un problème d'insécurité, on nous tabasse là-dessus, comme si c'était une généralité. Je suis très heureux que vous ayez écouté avant. Diviser pour mieux régner, il ne faut jamais le perdre de vue. Je suis très heureux des interventions, c'est le discours de la majorité, ça. Et je trouve qu'on en passe vraiment trop de temps.
Et qu'on ne laisse pas suffisamment la parole à ces gens.
Mais ça nourrit l'actualité.
Quand on n'a pas de sujet, qu'est-ce qu'on fait?
Allez, messieurs, un tour de table. Allez. Jean-Pierre Colombiès, oui. La réforme des retraites, pas de passage en force, mais Emmanuel Macron, paraît-il, vous savez quoi? Attendez, il y a quand même le ministre, un ministre qui a quand même fait une déclaration, il y a quelques heures, qui dit que le président de la République n'exclut pas une dissolution de l'Assemblée. et justement pour éviter cette motion de censure et cette réforme de retraite, elle se fera quoi qu'il arrive. Jean-Pierre Colombier, c'est un tour de table.
C'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est très très grave. Un passage en force et une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quelque part une forme de coup d'État. Je suis désolé de le dire comme ça, mais Macron nous habitue depuis des années maintenant à contourner tous les systèmes démocratiques et de représentativité nationale. À chaque fois, il organisait des grands débats, le Ségur de la médecine, le Beauvau de la sécurité, les assises de la justice. Et de tout ça, il ne reste rien, sans parler de la convention sur l'écologie, dont il s'est contrefoutu, mais allègrement. Et là, il nous fait un caprice. Si ma réforme ne passe pas, je passerai en force. Ce qui est une déclaration de guerre ouverte, à l'opinion publique, et deux organisations syndicales qui sont toutes contre. C'est comme la réforme de la police judiciaire. C'est pareil, c'est le même sujet. On pourra en parler, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, parce que c'est un vrai sujet. Mais ce monsieur est dangereux. Dangereux pour la démocratie. Il n'arrête pas de provoquer l'opinion publique. Il y a un adage qui dit... Malheur, malheur au pays qui se choisit un roi enfant. On est exactement dans cette configuration. Emmanuel Macron, président enfant, nous fait un caprice. Si ma réforme ne passe pas, je dissous l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très grave.
Bruno Pommard.
Bon, je suis pas
peut-être qu'il va venir. Je savais que vous n'allez pas être d'accord.
De mon collègue commandant de police à la retraite.
Comme toi.
Artiste, ouais, comme moi, major à la retraite.
Mais acteur aujourd'hui.
Ouais. Non, moi je suis un petit peu plus.
Je suis bien encadré. Hein. Oui, tu j'ai rien fait. Hein.
Tu risques rien.
J'ai rien fait.
Il a droit à une clochette, tiens.
De façon générale. J'ai rien fait.
Je viens de réaliser.
Elle était bonne celle-là.
De façon générale, je serais plus modéré que mon collègue, quand même. Il y a des choses qui avancent aussi. Tu parlais du Beauvau de la sécurité, mais. Bon, le sujet n'est pas là aujourd'hui, mais il y a des choses qui avancent quand même, avec la LOPMI qui va être mise à place.
Ça, c'est mais là, le sujet, c'est les retraites.
Oui, mais c'est essentiel, la réforme de retraite. Elle est nécessaire, cette réforme.
Oui, non, mais tout n'a rien à marcher.
C'est pas ce que se disent
La retraite est évident qu'il faut la réformer, mais depuis des lustres. Moi, je pense où le gouvernement doit s'atteler considérablement, et c'est pour ça que ça me paraît, je ne sais pas comment on n'arrive pas à trouver des solutions, c'est qu'on regarde en priorité ceux qui gagnent le moins et ceux qui ont les métiers les plus difficiles. Je pense à mes amis agriculteurs. Il y a une revalorisation pour leur retraite, mais ce n'est pas assez, à mon sens. Il y a tout un tas de métiers qui doivent être revalorisés en termes de retraite. Oui. Et je pense que c'est le sujet essentiel de cette réforme. Voilà. Si ça
mais
passe
sans
pas,
concertation, ça ne passera pas.
Oui, mais 49-3, puis c'est tout.
Ah bon, bah 49-3, bah très bien, vu la démocratie.
Mais Panot et Le Pen n'ont pas peur qu'il y ait des solutions. Ils ont tous peur de perdre leur poste de député.
Je vais juste te dire un truc, après je vous laisse la parole. Juste un truc, s'il te plaît. S'il fait ça, c'est la mort née, mais ça je l'avais déjà dit sur ce plateau, de ce fameux Conseil national de la refondation qui nous a annoncé à grand renfort de publicité. C'est tout.
Mais bon, oui. On a tous.
Karim Alouache. Ah,
On n'est pas des.
Nés de la dernière pluie.
Nés de la dernière pluie, voilà, chercher mes mots. On sait tous que tous ces conseils n'ont de vocation. C'est comme les consultants dans la vie. Oui. Ils sont là pour valider une décision que vous avez déjà prise.
Exactement.
Donc en fait, à part dépenser de l'argent, on peut faire des économies.
Moi, je trouve. Quel est votre point de vue?
La réforme des retraites, pour moi, d'abord, il faut avoir un discours de vérité. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce qu'il n'y a pas le feu?
C'est pas la valeur.
Non, mais vous regardez les montants, etc. Non, mais c'est faut avoir un discours de vérité.
Alors.
La deuxième chose. Moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur privé, donc ça va être mes 25 meilleures années, 42 ans de cotisation, etc. Que les personnes qui sont au pouvoir politique donnent l'exemple. Moi, je trouve scandaleux qu'une personne qui fait un mandat de sénateur va se payer une retraite. Alors, on va dire, ouais, mais ils ont une retraite spécifique. Et puis, en plus, vous savez pourquoi les sénateurs ont une caisse pleine? C'est parce que les sénateurs, ils sont sénateurs et ils cotisent jusqu'à leur mort.
Et ça pèse des
milliards. Ils consomment très peu de retraite. Il y a très peu de sénateurs qui touchent la retraite de sénateur.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent. Hein.
Donc c'est, non, mais c'est pas parce qu'ils gèrent bien.
Oui, mais ça génère beaucoup d'argent.
La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre les choses. Enfin, il y a à un moment donné, il y a des points d'égalité à avoir. Tu peux pas avoir d'un côté, et je suis provocateur volontairement, parce que soit on regarde le sujet dans sa globalité, soit on arrête de le regarder. Pas normal qu'il y ait des gens. Et je connais un peu le monde aussi de la haute fonction publique, qui est des gens qui vont avoir une retraite sur la base des 6 derniers mois de salaire et la dernière année on vous charge bien parce qu'on sait que ça va calculer votre retraite, et qu'il y en ait d'autres qui rament. Deuxième point, effectivement, on n'est pas égal dans le travail. Je dis pas que j'ai pas un boulot qui est pas fatigant et stressant, mais quand vous êtes dans des bureaux et assis, même si c'est un bureau intellectuel, qui peut être stressant, physiquement, c'est moins pénible qu'un gars qui est en train de creuser dans la
rue,
ou quelqu'un qui vit autre chose.
On marque une pause et on revient, parce qu'il y a un autre sujet aussi que j'aimerais traiter.
Alençon.
C'est les échos. Alençon, absolument. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
19h22, dernière ligne droite et le débat continue. Les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombiès. Les informés, c'est avec Karim Alouache. Et enfin, les informés, c'est avec Jean-Bruno Pomard. Messieurs, nous allons revenir sur ce sujet. Alors, il y a eu effectivement des véhicules incendiés, des affrontements entre les forces de l'ordre. On est dans le quartier, évidemment, de Persaigne, qui a été le théâtre de violence. J'aimerais juste qu'on s'arrête. Je veux qu'on me pose cette question. Alors, est-ce que c'est la lutte contre le trafic de drogue? Est-ce que c'est la question de la sécurité? C'est à Alençon, hein, justement. Finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, bon, la lutte contre le trafic de drogue, paraît-il, effectivement, c'est un peu le sujet. Mais la question que je vous pose, comment il s'explique ce regain de violence, Jean-Pierre Colombiès?
Il s'explique tout simplement par des zones de non-droit que la République a totalement délaissées. Et moi, ce qui m'agace profondément, c'est qu'on laisse tomber des populations entières qui vivent dans ces quartiers, parce que qui c'est qui met le feu à ces bagnoles? Ils sont 20, 50 peut-être. Mais il y a combien d'habitants dans ces quartiers? J'ai déjà dit ici sur ce plateau, on a laissé tomber des milliers d'individus, de familles qui, elles, se lèvent à 5h du matin pour aller bosser. Et c'est les voitures de ces gens-là qu'on a cramées. Et c'est ça qui est scandaleux. Mais c'est un processus qui est long, qui n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on a laissé tomber les quartiers. Quand on a supprimé la police de proximité, on a supprimé ce lien avec le pouvoir régalien et la population qui demandait à avoir un contact avec l'autorité visible de l'État. À partir du moment où tu supprimes ce lien, eh ben c'est la fête, c'est la foire. Et pour les délinquants, c'est une appropriation du territoire qui se comporte en bande.
Vous dites
en
zone de non-droit.
Absolument. Mais complètement, mais il y a pas. Enfin, Alençon, faut relativiser les choses. C'est pas Chicago. Enfin, je veux dire, c'est pas des zones. Je dirais qui fondamentalement, je pense à Nantes aussi. On pourrait démultiplier les exemples.
Ce qui est assez étonnant.
Comment on explique son regard?
Non, mais d'abord, la violence touche énormément, comme beaucoup d'autres problèmes, les zones rurales. Alors que, enfin, quand je dis rurales, c'est que c'est la province, hein, par rapport aux grandes villes. On s'attend pas à voir ça. Moi, quand j'ai vu Alençon.
Il
y a des quartiers là.
Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a
c'est dramatique. Pour moi, à un moment donné, on ne peut pas demander à des policiers, alors là, qu'ils vont être choqués, mais c'est réaliste. Et vous savez, les gens vont réagir le jour où ils seront eux-mêmes touchés par des violences et autres. On peut pas. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui est, vous attrapez un trafiquant, flagrant délit, ce que vous voulez. Et le gars, ou même une agression, imaginez la victime, parce que. Deux jours après, elle croise son agresseur dans la rue parce qu'on a un système judiciaire que je trouve pas du tout en face avec le système de police.
Et parce qu'il y a pas cette place dans les prisons, non, tout non, simplement. Mais c'est pas la police et la justice qui fonctionnent pas bien. C'est simplement qu'on n'a pas de place de prison.
C'est pas normal que quand on commet des délits avec violence hyper élevée, rappelez-vous les images que des gars, des jeunes en train de frapper des policiers qui se protégeaient comme ça. Enfin, c'est vraiment fort. Oui. Ça, c'est le premier phénomène. Il n'y a aucun rapport. Et une justice qui va trop lentement.
Mais c'est le pas gars, ça, c'est qu'elle n'a plus les moyens de fonctionner.
Il va être jugé dans deux ans. Quand il va passer en justice, il aura même oublié.
Mais pourquoi?
Le deuxième point. Il n'y a plus de moyens. Le deuxième point. Et ça, c'est grave. C'est le relais médiatique. Oui. Aujourd'hui, c'est presque. Parfois, moi, quand je vois des images et tout, je me dis mince, ça y est. Le concours est lancé, ça va partir dans la surenchère.
C'est souvent ça.
Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, mais il y a une responsabilité des médias.
Complètement. Tout à fait d'accord.
Autrefois, il y avait les journaux.
Les médias traitent l'info.
Les réseaux. Non, mais. Il y a traiter l'info et il y a entretenir l'info.
Exactement. Ce qui s'est passé en 2005.
Et pas n'importe quelle information.
C'est pour les gens.
Et du coup, quand il y a eu des problèmes de voitures brûlées et tout, j'étais à l'étranger. Quand je regardais l'info qui était transmise dans les médias étrangers, j'avais l'impression que c'était en guerre.
Oui, mais c'est une forme de guerre civile.
Et en plus, vous avez des chaînes d'information, si on peut appeler ça, en boucle, qui vous passent ça, mais toutes les 15 minutes. Vous avez l'impression que c'est la dernière chose. Vous avez raison, il y a des zones de non-droit. Moi, je suis désolé. Il y a une responsabilité des acteurs politiques qui, entre guillemets, il faut dire les vérités. Qui achète la paix sociale?
Bien sûr.
Vous avez les bailleurs sociaux. Et pourquoi les bailleurs sociaux? Alors on me dit, mais attendez, le phénomène d'avoir supprimé dans toutes les résidences ce qu'on appelait les gardiens et gardiennes d'immeubles, qui au-delà du lien social, quand quelqu'un rentrait qui n'était pas là, elle savait. Quand quelqu'un traînait en bas, elle dégageait. Et à l'usure, on laisse ça. Et puis.
On les protégeait aussi.
Voilà. J'ai été élu, il y a un truc, en 6 ans de mandat, j'ai été élu d'opposition dans une ville à Bondy, et j'ai découvert un truc qui m'a un jour interpellé. vous aviez à chaque conseil les remises gracieuses des loyers impayés parce que les gens sont en difficulté et c'est normal d'aider les gens vraiment en difficulté. Et puis à un moment donné, je trouvais que les remises, elles baissaient. Il y en avait de moins en moins. Je me dis, mais les gens n'ont pas plus travaillé, ne sont pas enrichis. Bah bien sûr, parce que quand l'économie parallèle paye des loyers,
ben oui.
Les bailleurs sociaux
tout à fait.
Sont contents, les loyers sont payés. Alors oui. Je ne dis pas que non, non, c'est volontaire. Mais quand même, il faut à un moment donné se poser la question.
Mais la faute à qui ?
Bruno Pommard.
Je vais pas
Tenez, justement, je vous donne la parole.
Ressasser ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord. Bon, moi, je suis maire d'un village, alors ça n'a rien à voir avec une grande ville, mais en même temps, la responsabilité à la base, toute à la base, revient aux élus, aux maires, qui actuellement, on les voit tous, demandent une réponse régalienne. C'est-à-dire que la sécurité, c'est l'affaire du régalien, ça c'est le truc traditionnel. Maintenant, la sécurité, c'est l'affaire de tout. Quand, lorsqu'on parle du continuum de sécurité, ce n'est pas seulement l'État, avec M. Darmanin, qui va foutre plus de bleu, parce que tous les maires vous demandent plus de bleu.
Qui l'a pas,
c'est le maire qui a une vraie responsabilité d'avoir abandonné, soit par clientélisme et en voyant que ça ne marchait pas pour les élections, on a laissé tomber des associations, le travail de terrain. Moi, j'ai passé 10 ans dans un quartier de Corbeil-Essonne à bosser. J'avais de gros moyens pour bosser. Je faisais des choses merveilleuses avec mes gars. Voilà. Et on travaillait sur le terrain, la proximité. Maintenant, on a totalement tout abandonné. Et on entend
la proximité, le maire d'Alençon qui dit... La proximité traitée par Jean-Pierre Colombier tout à l'heure, justement.
Le maire d'Alençon qui dit « Ah, ben, il me manque des policiers ». Ce qu'il a oublié de dire, le maire d'Alençon, c'est que est-ce qu'il a des médiateurs le soir quand les connards viennent foutre des coups de... Non, il n'y a personne sur le terrain. C'est pas aux policiers à traiter des incivilités. C'est à des médiateurs, c'est à des éducateurs d'être sur le terrain.
Quand il n'y a plus les finances pour le faire, c'est un peu compliqué.
Il y a des financements, il faut savoir où les mettre. Soit tu les mets dans les parcs, dans les ronds-points avec des fleurs, soit tu les mets là-dedans, ou dans la culture, ou je ne sais quoi, bref, ou dans le sport. Mais, et à l'ensemble, je dirais même plus, quand tu as un procureur de la République qui est parti, qui a dit ah, les policiers sont allés interpeller des dealers, il ferait mieux de faire autre chose, ça évite. du coup, ils ont déclenché en gros le bordel.
Ben oui.
Non, mais c'est un scandale.
Mais
c'est,
quand je vous ai
donc
dit.
C'est une responsabilité collective, et les élus ont une responsabilité.
Quand je vous dis que les politiques.
Plus encore que les.
Quand je vous dis que les politiques achètent la paix sociale,
oui, c'est sur cette
qu'on parle. Il faut arrêter de mentir. Vous voyez des choses en marchant à ciel ouvert. Vous n'avez même pas besoin de chercher. C'est devant vous et il ne se passe jamais rien. Il y a eu des débats. Moi, je vous rejoins sur le fait de dire que il faut mettre l'argent là où il doit aller et pas à sa réélection.
C'est un choix politique.
C'est-à-dire qu'un élu, quand il est élu, la première chose qu'il fait, c'est il prépare sa réélection.
Il est 19h30. Merci, monsieur. Merci à Jean-Pierre Colombiès. Rappelez-nous votre pièce.
Piège pour un homme seul, demain soir au théâtre, à l'espace Coluche, au théâtre à plaisir. Il y a encore des places. Il y en a quelques.
Allez-y. Karim Alouache, à très vite.
Ben, oui.
L'homme de la finance.
Et de l'associatif.
Et de l'associatif.
Avec Atlas.
Je kiffe. Bruno Pommard, à très vite.
Merci, Charlie.
Le président fondateur, ancien du RAID, le président fondateur.
Moi, j'aime bien son t-shirt, s'il peut m'en avoir.
Sniper, exactement. On le veut tous. Exactement. Et président, donc, fondateur de RAID Aventure. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est topissime. Milan Nedman, c'est à 20h. À demain avec autant de plaisir. Prenez soin de vous, mais surtout, on ne lâche rien.
Non.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.